Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Bonjour.
Tu veux me parler des cartes de crédit?
Oui.
En cette période de crise, ça doit être sollicité et pas à peu près.
Oui, mais c'est surtout qu'il y a un mouvement qui veut, puis le gouvernement en mentionne, qu'on veut négocier avec les banques pour baisser les taux ou donner un délai aux gens. Et là, Sylvain, je vais t'amener quelques arguments pour, selon lesquels je pense que le gouvernement va frapper son Waterloo.
Oh!
C'est-à-dire que ça fonctionnera peut-être pas. Première des choses, il faut savoir que la carte de crédit, c'est pas un droit, c'est un privilège. Et donc, les banques, quand ils t'émettent une carte de crédit, il y a bien une clause dans le contrat qui est très, très, très claire. Comme c'est du financement non garanti par quelque chose ou un actif, et comme ça coûte cher recouvrir de l'argent quand c'est non garanti, bien, la banque te charge un taux important. Là. C'est du 20,99 environ pour les bons payeurs souvent. Là. Il y a plus bas des fois là, sur des promotions, mais en somme, c'est environ 20% et plus. Et c'est, tu peux te faire rappeler ta carte de crédit quand la banque
ouais.
veut.
Ouais.
Donc, si le gouvernement décide ou pense qu'il peut négocier avec les banques puis dit « Ah, je voudrais qu'on baisse les taux à 10%, les banques vont dire « C'est correct ». Si on met les taux à 10%, je vais prendre juste les gens qui sont finançables avec un taux de 10%. Hey. Et tous les risqués, je vais les enlever.
Exactement.
Je vais rapatrier ouais. le prêt. Puis ils vont me payer. Le gouvernement va dire, oh, une minute, là. Oh, c'est pas ça qu'on veut. D'accord. Puis y a-t-il un moyen qu'on pourrait régler quelque chose? Oui, facile. Vous voulez qu'on baisse ça à 5-10%? Aucun problème. Garantissez-nous l'encours des prêts. Pardon? Oh, oui. Si vous voulez qu'on mette des taux vraiment bas, bien, garantissez la dette des consommateurs. Puis on va signer. Mais là, on ne veut pas garantir la dette de carte de crédit des gens. Ah! Donc, on va rester de même? Oui. Puis, de plus, on peut ajouter un argument de plus, Sylvain. Si les gens sont endettés sur leur carte de crédit depuis des mois, puis qui ont déjà un délai de financement de 21 jours, alors, c'est pas la COVID-19 qui a généré la dette de sa carte de crédit. C'est un comportement qui est lié avant la COVID-19. Donc, les compagnies de carte de crédit, ou plutôt les banques, pourraient dire, « Hey, pourquoi votre paiement pour aider les travailleurs est basé sur le fait qu'il faut qu'ils aient perdu leur emploi en fonction de la COVID-19. Puis nous autres, on devrait baisser nos taux et donner des délais pour des dettes qui étaient là avant la COVID-19. Ouais. Faut pas oublier que si la banque acceptait de baisser les taux ou de décaler, ils t'en chargeraient plus cher ailleurs sur tes marges de crédit, tes cartes de crédit, tes frais de compte bancaire. Rien ne s'opère, rien ne se crée, tout se transforme. La preuve, Sylvain, c'est quand le gouvernement a forcé les banques à monter les paiements minimums sur les cartes de crédit, qu'est-ce qu'on a fait en échange? On a monté les taux puis on a monté les frais. Donc, si tu enlèves de quoi, la banque va se repayer ailleurs. Et si tu forces, disons que tu essaies de forcer les banques à baisser leurs taux, ben tu vas juste empêcher des nouveaux citoyens d'avoir accès à du crédit parce qu'on va leur refuser en disant « Vous ne faites pas partie de la catégorie de gens à qui on veut prêter, non garantie maintenant avec les nouvelles conditions imposées par le gouvernement. »
Et je sais qu'il va faire un petit commentaire, puis c'est pas méchant du tout, du tout.
Vas-y.
C'est même inspiré d'un film que j'ai vu à un moment donné qui était bien fait. Je pense que c'est Philippe Falardeau qui avait fait ça. Il suivait un chômeur. C'était comme un genre de... Okay. Ça se passait pour un documentaire, mais c'était bel et bien de la fiction, là.
Mm-hmm.
Tu sais, le gars, tout allait bien, t'es ingénieur, OK? Fait que la banque, il a envoyé une grosse marge de crédit, puis des cartes de crédit, mais là, il perd sa job d'ingénieur. Fait que là, il se dit, bon, ben, j'ai pas trop de coussins, mais heureusement, j'ai une marge de crédit et une carte de crédit. Sauf qu'il y a plus de job. La banque a tout rappelé. Fait que là, il se présente, il y a une scène où il se présente, puis il dit, « Hey, vous m'avez offert du crédit, pour le moment où j'en ai besoin, vous me lâchez. » Ouais, mais on t'a l'offert pendant que t'avais une job. Là, lui, il répond, « Ouais, mais là, c'est un peu un film pour contester un peu le système bancaire. Ça n'a pas de bon sens, vous êtes pas là pour nous autres, pour nous aider. » Mais dans le fond... Il y a peut-être des gens qui vont s'en rendre compte que si vous comptiez sur vos cartes de crédit ou les marges, ça va pas bien, on va aller puiser là-dedans. Non, parce que quand ça va pas bien, ça se peut qu'ils rappellent tout ça.
Ça peut être rappelé sur demande parce que vous le signez en bas de la page.
Ouais,
vous
là,
le signez. J'accepte que ce soit rappelé à n'importe quel moment. Ça devrait jamais être du financement dans une période régulière. Donc, ça ne peut pas servir de financement en période de crise.
Je sais, mais il y a du monde.
Ouais,
moi, j'en connais qui ont perdu le job, ils étaient fâchés. Ils disaient, regarde, Sylvain, j'ai pas utilisé ma carte de crédit pendant toute ma vie. Là, ça va mal. Je veux y aller, puis ils me l'enlèvent. Ouais, mais c'est le système qui marche demain. Je comprends la frustration, mais il faut avoir un coussin. D'ailleurs, moi, je suis convaincu que ça va être une leçon qu'on va tirer de cette crise-là, de se faire tout un petit coussin d'au moins quelques semaines, quelques mois.
Je pense qu'on va avoir des matelas de réserve parce que les coussins maintenant.
Le bon vieux bas de laine, tu penses?
Oui, le bas de laine va devenir un matelas. Non, c'est blague, mais ce que je veux dire, c'est que l'épaisseur sera plus juste un coussin, ça va être un matelas. C'est un jeu de mots.
Je sais. Mais j'espère. En même temps, plus je pense que les gens vont se faire un coussin, plus ça me dit que l'économie va prendre du temps à ralentir.
Ah, c'est sûr, mais...
Va prendre du temps à revenir, c'est
comme
ça,
après la guerre,
dire.
Sylvain. C'est comme après la guerre. Nos grands-parents, moi, mes grands-parents, Anatole et Léona, évidemment, c'est des gens plus âgés, ils sont décédés il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, 30 ans. C'est des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est quoi les réflexes de cette génération-là? Ils ont pilé de l'argent puis ils ont eu peur. Puis les boomers regardaient leurs parents, disaient « Arrêtez donc de gratter des cents, il n'y a rien qui va arriver.
Ouais. »
Puis les X, après, ont vécu le chômage, mais... Puis les Y ont juste pas rien vécu de. Puis, comme moi, j'ai 40 ans, je peux pas dire que j'ai vécu comme adulte de grandes dépressions. L'affaire la plus tough que je me souviens, c'était à mon adolescence, c'est la crise économique de 91, 92, 93. Là. Après la guerre du Golfe, là, les années 90, ça a pas été le fun.
Ouais, mais c'était pas si pire encore.
Mais c'était pas si pire par rapport à aujourd'hui.
Moi, je pense que les gens vont... T'as raison. On va être shakés, puis je comprends là, tous ceux qui ont de la misère actuellement, puis ont compatit. Probablement qu'ils vont devenir prudents, mais tous ceux comme Trump et d'autres qui espèrent qu'à part quand we go, l'économie, ça décolle, puis on se met à dépenser. Oubliez ça. Moi, je suis sûr qu'ils se garrocheront pas toutes à s'acheter une nouvelle maison, un chalet, un char, puis en we go. Il y en a qui vont se dire, OK, on a appris le son. On va s'en mettre de côté, ce qui est pas mauvais, ce qui est très sain. Je sais que tu prônes ça depuis longtemps, mais ça va donner à l'économie, ça repartira pas en cinquième vitesse tout de suite.
On s'entend-tu que l'industrie automobile cette année aura pas de chance, là? Parce que,
tu sais,
3-4 mois, si on passe 3-4 mois de main, je sais pas combien de temps on va passer comme ça, mon premier réflexe, ce sera pas de m'acheter un nouveau char de 50 000, on s'entend?
Non. Puis dans l'immobilier, j'ai l'impression qu'il va y avoir...
Ça va se calmer.
Il va y avoir des ventes, beaucoup de ventes. Oui. J'espère que non. Je le souhaite pas, là, qu'il y ait des gens découragés qui vendent. Mais ça se peut qu'il y en a qui passent pas au travail.
Puis il y a toutes les couples qui vont se séparer pour être passés trop de temps ensemble, qui vont être obligés de vendre leur maison aussi. Ben, tu ris, mais en Chine, c'est une réflexion que les gens ont. Est-ce que l'impact de la COVID sur les familles?
Alors, bref, on ne sait pas ce qui va arriver. Entre-temps, il y a au moins la mesure d'urgence. Hier, on l'a accueilli. Ça a été accueilli pas mal positivement partout, le 2000 annoncé par Trudeau. Sauf que là, hier, tu nous disais, le diable est dans les détails. Qui a droit à ce 2000-là par mois et qui n'a pas droit? Tu veux qu'on joue un jeu?
Ça fait 24 heures que je parle au gouvernement, où j'appelle des gens. Tout ça, on dit, en fond, on va être flexible. On n'a pas encore vraiment bien défini les règles. Donc, je me suis amusé avec les règles actuelles. OK? Allons-y. T'as un gars ou une femme qui gagne, disons, une femme, gagne 200 000 par année.
Oui.
Son chum est serveur dans un restaurant. Le restaurant ferme, il perd sa job à cause de la COVID. Il a gagné 5 000 l'an passé et plus. Est-ce qu'il a droit à la prestation canadienne d'urgence?
Même si sa blonde gagne 200 000 par année.
Ah, 300, 400, 500, techniquement, oui, Sylvain. Parce que techniquement, il a perdu sa job à cause de la COVID.
Ouais.
Il n'a pas droit au chômage parce que... il a droit au chômage. Fait que s'il a droit au chômage, il commence par la prestation canadienne, puis après ça, il va au chômage. Mais disons qu'il était un travailleur autonome, tu sais, qui gagnait 40 000. Mais si ton conjoint est millionnaire, ça compte pas dans le calcul actuellement. Peut-être
mais
que
là, ça va... Je pense que ça va devenir un peu une question de civisme et de... Bon,
exactement.
Là, moi, ce matin, j'ai rencontré une amie qui, honnêtement, je sais qu'elle est capable de passer au travers de la crise, mais on jasait de ça, et elle se qualifie pour le 2000, et elle m'a dit, c'est clair, là, je la crois, là, elle va pas le chercher, là, elle y va pas.
C'est sûr, parce que le gouvernement dit, si vous avez des besoins, il y a ça, mais il y a plein de gens qui vont se dire, j'ai pas de besoin, je vais le laisser aux autres.
Ben, elle, c'est ça qu'elle a dit. Moi, je touche pas ça, elle dit, j'en ai pas besoin, je vais pas chercher ça, mais là, ça va devenir une décision individuelle. Là.
Exact. Mais le but du gouvernement, c'est que le monde soit honnête en fonction de leurs besoins. Je te donne un exemple. Un chauffeur Uber à temps partiel.
Oui.
Qui a déclaré plus de 5 000 l'année passée. Ai-je droit à la prestation canadienne d'urgence? Ben, si on regarde les critères, t'as gagné plus que 5 000 l'an passé, t'as cessé de travailler parce que t'as perdu des clients, donc à cause de la COVID.
Oui.
Et, parce que tu peux encore travailler, mais il y a beaucoup moins de clients, donc tu pourrais dire que t'as plus de clients. Et, ça se peut que t'aies des enfants à garder chez toi ou que tu sois lié à une personne qui a la maladie, donc faut que t'arrêtes de travailler. Et donc, t'es pas couvert par l'assurance emploi, t'es travailleur autonome, et paf, tu tombes possiblement... candidat pour le 2000$. Autre exemple. Je suis retraité dans les faits. T'sais, j'ai, mettons, 60 ans. Je ne touche pas à mon revenu du RRQ tout de suite, ni à ma sécurité de vieillesse, ni au supplément de revenu garanti.
OK.
Mais je travaillais 10 heures par semaine dans un commerce pour me divertir.
OK.
Et là, le commerce est fermé à cause de la COVID. Mais j'ai 500 000 de REER. Est-ce que je peux quand même toucher la prestation canadienne?
Je pense que oui. Hein?
Ben oui, techniquement.
Ouais.
Tu étais au travail, tu as perdu un emploi à temps partiel, tu as gagné au moins 5 000 en 2019.
Oui, mais ça s'appelle un plan d'urgence. Si tu as 500 000 dans ton REER, c'est pas urgent que tu aies cherché ça.
Oui,
là.
Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement canadien va être obligé d'être cohérent. Je parle d'une réflexion. Tu es étudiant, tu es chez tes parents, tu as 19 ans. Tu as normalement un emploi d'été, de mars à avril. Normalement, tu cherches en mars. Puis là, T'as pas d'emploi, comme t'es étudiant à temps plein, t'as pas le droit aux prestations canadiennes d'urgence. Donc, si t'avais un emploi à temps partiel, t'es étudiant puis tu le perds, c'est bien de valeur, Sylvain, mais techniquement, présentement, si les étudiants peuvent pas retourner travailler, on va leur donner 8 000 $ chacun.
Oh, j'aime pas ça parce que depuis tantôt, on se dit, ben, il va falloir que les gens fassent appel à leur sens civique, leur responsabilité,
sais,
mais
vrai,
là où il y a de l'humain, parce que je viens de me rappeler un vieux reportage que j'avais fait il y a longtemps, moi, de compter ça rapidement.
Vas-y.
Parce que, dans le fond, ce que tu dis là, c'est un peu comme les banques alimentaires. Si moi, je me présente tantôt chez Moisson Québec, on s'entend que j'irai pas là, là, mais j'y ai droit, ils vont me donner un panier,
ouais,
là.
Ils vont me le donner. Cheap, à peu près, quand ils vont entendre ta voix, ils vont dire, je te reconnais,
non,
toi,
t'as
la même voix que le gars qui fait des annonces. De
Moisson Québec, je leur en donne. Tu sais, je ne vais pas en chercher, je leur en donne. Mais techniquement, là, si les gens disent qu'il n'y en a pas qui font ça, hey, moi, j'avais enquêté très jeune. Là,
pour vrai?
Dans un terrain de camping avec des roulottes à plusieurs centaines de milliers de dollars. Tu sais, les gens d'autobus. Là,
il y avait des bougons.
Le matin, ils se levaient, puis il y avait un petit comptoir alimentaire pas loin. Il partait en gang puis allait chercher le stock.
Il s'habillait-tu un peu moins propre pour essayer de passer en tout radar?
Je ne sais pas trop. Puis il revenait dans leur camping avec leur roulotte campeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. On les avait poignés. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont aller chercher le fonds d'urgence de 2000, même s'il n'y a aucune urgence pour eux? Oui, mais pas tout le monde.
Okay. Je donne un exemple. Si tu peux toucher le régime québécois d'assurance parentale présentement, est-ce que tu as le droit en plus à la prestation canadienne d'urgence?
Non, j'imagine.
Non, parce que tu as déjà un revenu.
Là, c'est
par contre, si ton RQAP s'arrête avant la reprise et que ta job que tu avais avant de quitter pour ton congé parental n'est pas de retour et que tu n'es pas possiblement exposé à l'assurance-emploi, tu peux demander la prestation canadienne d'urgence. Parce que ça fait partie. Tu as ton droit, tu n'as plus d'emploi à cause de la COVID.
Il y en a qui vont. Encore là, il y en aurait qui pourraient en avoir besoin dans cette situation-là,
oui,
dépendamment, puis il y en a d'autres que non. Là.
Parce que le RQAP, c'est pas si payant que ça pour tout le monde. Il y en a qui ont moins que 2 000 par mois. On continue. Là, je vais donner un exemple un peu excessif. Tu as une société Inc. Appelons-les Divertissement McSween Inc.
Okay? Oui.
Puis Divertissement McSween Inc. fait des contrats de consultation un peu partout, plein d'affaires, et puis se fait payer dans la compagnie. Mais. Pendant la COVID, j'ai encore un local à payer, j'ai encore plein d'affaires à payer, tu sais, dans la compagnie, puis je me verse pas de salaire. Puis je dis, je manque de liquidité, mes clients me payent pas. Est-ce que j'ai le droit d'avoir accès à l'aide au niveau personnel? Si ma compagnie a un peu de liquidité, mais qu'elle en a besoin? C'est une maudite bonne question, ça. C'est pas répondu, ça, Sylvain.
Oui, il y a plein de gens qui vont devoir, sais-tu quoi, faire un examen de conscience.
Ah,
et dans le fond, là, je pense que le plan, il est là. On l'a dit hier. On sait qu'il y a une couple de bougons qui vont se faufiler là-dedans, mais quand tu veux aider le vrai monde puis le bon monde, faut que tu acceptes qu'il y ait des crosseurs qui en profitent. Mais vous aurez à répondre, non pas devant un tribunal, mais devant votre propre morale puis votre conscience.
Ouais, là, au Québec, la morale, ils n'ont pas tant que ça, moi, t'as le dit.
Tu sais, la petite voix quand tu te couches, là, je sais qu'il y en a qui n'ont pas, c'est ta mute depuis longtemps, là. Mais c'est avec ça, moi, que j'invite les gens. Regarde, si tu n'en avais pas besoin du 2000, allez pas le chercher parce
mais
que tôt ou tard.
Si ta voix paye un barbecue puis un scooter neuf après la crise.
Merci, Pierre-Yves. On se retrouve lundi prochain. Bon week-end, fais attention à toi.